Substance. Podcast stupéfiant.
Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Julie Daché, dépression et champignons, épisode 1. Jusqu'à présent, la plupart des consommateurs de psychédéliques qu'on a entendus dans Substance sont arrivés aux psychédéliques par l'usage récréatif. Même si l'on sait que cette distinction entre usage récréatif, usage thérapeutique et usage spirituel n'est pas forcément toujours pertinente. Mais depuis quelques années, avec la diffusion en masse d'informations sur les bienfaits potentiels des psychédéliques dans les médias mainstream, on a une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle génération de consommateurs qui arrive directement avec l'idée de guérir. Ils ont envie de guérir grâce aux psychédéliques. C'est le cas de Julie Daché qui a décidé de témoigner pour Substance ouvertement, sous son propre nom. Elle nous expliquera pourquoi à la fin de son témoignage, qui est découpé en deux épisodes. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
Donc moi, je suis la petite dernière d'une famille de trois enfants. Mes parents sont ce qu'on appelle des transfuges de classe, donc ce qui signifie qu'ils sont tous les deux issus de milieux, pour le coup, très très précaires, et qu'ils ont vécu un changement de milieu social important au cours de leur vie. Mon père, en fait, s'est lancé dans l'immobilier quand il était jeune, à une époque où c'était porteur. Et grâce à ça et à ses compétences, il a très bien gagné sa vie. Donc moi, au moment où je suis arrivée, je suis née dans une famille qu'on pourrait qualifier du coup de famille bourgeoise de province. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Je sais que j'ai eu une enfance heureuse. Par contre, ça s'est compliqué à partir de la préadolescence parce que j'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété et aussi des symptômes dépressifs assez lourds, qui d'ailleurs après m'ont poursuivi pendant de nombreuses années. D'une part parce qu'il se passait des choses à la maison qui étaient pour moi difficiles à vivre, et d'autre part parce que je me sentais assez en décalage avec les jeunes de mon âge. J'avais pas du tout les codes, ou en tout cas j'avais pas les mêmes codes qu'eux. Je m'habillais pas de la bonne manière, j'avais du mal à me faire des amis, j'étais pas la fille cool quoi. J'avais le syndrome de la bonne élève, donc j'étais obsédée par mes notes, je voulais avoir un bon bulletin scolaire, c'était vraiment... ça qui me valorisait, donc je m'investissais beaucoup là-dedans. Mais pour tout le reste, j'étais assez nulle. Alors l'adolescence, elle a été vraiment très compliquée, parce que j'ai commencé à avoir des idées suicidaires à ce moment-là, dès la préadolescence. Donc oui, je sais que c'est une période sensible hein, pour tout le monde, mais là pour moi, vraiment particulièrement, quoi. Particulièrement. À l'époque, je lisais beaucoup, enfin encore aujourd'hui, mais je lisais beaucoup de romans surtout. Et ça, j'adorais ça, ça me faisait beaucoup de bien de m'immerger dans un autre univers et de, voilà, d'imaginer des scénarios, etc. Et même de me prendre d'affection pour des personnages, enfin ça c'était chouette. Et puis j'ai toujours été très proche des animaux et on avait un chat à la maison. Donc ça c'était très soutenant aussi pour moi, voilà.
Comme une bonne élève, toujours en tête de classe, et je me mettais une pression incroyable pour avoir des bonnes notes. Et d'ailleurs aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, quand je vois la pression que les gamins se mettent, et surtout la pression qu'on met sur les gamins pour qu'ils aient des bons résultats, etc., ça me crispe un peu parce que je me dis mais quel genre de conséquences ça va avoir sur l'adulte qu'ils vont devenir. Et cette pression de la performance qui ensuite ne nous quitte plus, quoi. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez malsain, finalement, d'exister au travers de ce qu'on est capable de produire et des résultats qu'on est capable d'obtenir. Je crois pas que l'essentiel soit là. Donc oui, ça marchait bien, j'étais une très bonne élève, mais bon, c'est bien avec le recul, je me dis, bon, à quoi ça aura servi? Je sais pas trop. Je pense que mon moteur derrière ça... C'est difficile, hein, rétrospectivement, d'essayer d'y mettre du sens. Enfin bon, on interprète les choses d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ce qui se jouait, mais en tout cas, quand je m'investissais dans un devoir ou autre et que j'avais une bonne note, voilà, j'avais un retour sur investissement. Je savais que dans ce domaine-là, j'étais douée et j'avais un retour positif des adultes autour de moi, des profs, de mes parents, etc., qui me disaient « c'est bien, c'est super ». Donc évidemment, c'est du renforcement positif, hein, c'est bête comme chou. Donc ça m'encourageait encore plus à aller là-dedans. Et au moins, dans ce domaine-là, je me sentais valorisée. Alors que dans les autres domaines, pas vraiment. Et j'avais pas confiance en moi, j'étais pas très à l'aise dans mon corps, avec mon identité. Il y a plein de choses qui dysfonctionnaient un petit peu, mais au moins je savais que ce truc-là, ça marchait, quoi. Et donc, bah, c'est facile, l'engrenage. Voilà, donc, évidemment, je me surinvestissais dans le travail scolaire, et puis finalement, à l'âge adulte, je me suis surinvestie jusqu'à il n'y a pas si longtemps dans le travail de la même manière, quoi. Alors, je suis beaucoup plus sportive aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque, mais j'ai commencé le tennis à l'adolescence et ça me plaisait beaucoup. Donc, ça me faisait du bien, mais en fait, j'étais tellement anxieuse et je me mettais tellement la pression que même dans mes activités sportives, ça transpirait, quoi. Et puis, j'étais tellement fragile moralement à l'époque qu'il suffisait qu'un prof, puis on sait, les profs ne sont pas toujours très pédagogues, il suffisait qu'un prof ou une prof voilà, soit un petit peu dur ou un peu de la vieille école, avec des remarques parfois un peu cinglantes ou autres, pour que moi ça me foute en l'air complètement et qu'en fait j'ai de l'appréhension chaque semaine au moment d'aller à mon cours, quoi. Donc c'était parfois un peu contre-productif. Les endroits dans ma vie, les espaces dans ma vie qui auraient dû être des espaces de respiration, parfois devenaient un petit peu anxiogènes aussi. Et je pense notamment à la danse que j'ai pratiquée pendant longtemps et que j'ai fini par abandonner parce que l'enseignante, qui je pense n'était pas méchante et ne pensait pas à mal, était très stricte, très autoritaire, etc. En tout cas, moi je la percevais comme ça et ça a fini par me dégoûter de la pratique. À l'époque, je ne posais pas du tout de mots sur mes ressentis parce que la santé mentale, ce n'était pas un sujet dans ma famille ou auprès de mes amis. Enfin, je vais avoir bientôt 40 ans et donc quand j'étais adolescente, en tout cas moi dans les milieux dans lesquels j'évoluais, on ne parlait pas de ces choses-là, quoi. Donc je ne savais même pas vraiment ce que c'était que l'anxiété ou la dépression. Donc à l'époque, non, je ne posais pas de mots dessus. Je savais que j'allais mal, j'en avais conscience. Je passais parfois beaucoup de temps dans ma chambre à me répéter en boucle « je suis une bonne personne, je suis une bonne personne, je suis une bonne personne ». Je n'ai pas de chance pour me raccrocher à quelque chose, quoi. Mais non, je posais pas de mots dessus. C'est avec le recul que je me dis « waouh, c'est chaud, quoi ». Alors, il n'y a pas eu de rupture avec l'obtention du bac. À ce moment-là, j'ai été voir un psychiatre, le premier, après avoir un peu négocié avec ma mère pour qu'elle me donne des sous, parce que bah, évidemment, je n'étais pas autonome financièrement, donc qu'elle puisse me donner des sous pour que je puisse aller voir un psychiatre. J'ai commencé un suivi dès l'âge de 18 ans. J'ai commencé des études supérieures à la fac. J'avais passé des concours d'école de commerce que j'avais eu, puis finalement, je ne me suis pas sentie capable de quitter Nantes, de quitter la ville dans laquelle j'étais, donc je me suis retrouvée un peu par défaut à la fac. Et en fait, je me suis retrouvée en décrochage, quoi, très vite. La bonne élève qui, au moment de se lancer dans ses études supérieures, s'effondre complètement, quoi. Donc, j'ai pas, au bout de 2, 3 mois, j'allais plus à la fac et je savais plus quoi faire, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Donc, de mes 18 à mes 19 ans, je me suis surtout raccrochée à cette thérapie que j'avais initiée, qui m'a fait du bien, qui a pas résolu pléthore de choses, mais qui m'a quand même remise un petit peu sur pied et suffisamment pour que je repasse les concours d'école de commerce et que je les décroche à nouveau et que je me retrouve finalement dans une école qui était l'école de Marseille. C'était une école en 4 ans, 2 ans à l'étranger, 2 ans à Marseille. Donc j'ai passé sur ces 4 ans, 2 ans en Espagne. Et donc je suis partie à l'âge de 19 ans en Espagne directement. Alors ça s'est pas très bien passé. C'est vrai que, en fait, toutes les années de ma vie jusqu'à la prise de psychédélique sont un peu larmoyantes, donc ça risque d'être un peu lourd. Non, j'allais pas bien, hein, toujours pas. Toujours pas, donc bah, je me suis retrouvée en Espagne, j'étais quand même un peu plus stable, donc j'ai réussi là. Et puis là, en fait, j'avais la pression parce que je me suis dit, ok, j'ai déjà perdu un an, entre guillemets. Donc maintenant, il faut que je réussisse, quoi. Et donc, je me suis remise à bosser. J'ai fait les choses sérieusement. Donc oui, je décrochais mes examens et tout. Donc ça, à ce niveau-là, ça allait. Ce qui est chouette, c'est que moi, à l'époque, j'adorais sortir. Enfin, en fait, j'adore aller danser et tout. Donc, jeune étudiante en Espagne, c'était chouette. Le week-end, je pouvais aller danser et tout ça. Ça, c'était cool. Mais moralement, c'était toujours un peu le chaos, quoi, hein. Et je passais quand même beaucoup de temps enfermée dans ma chambre, à regarder des séries. Enfin, j'étais en mode survie, quoi, toujours. Donc ça n'a pas été simple. Donc je sors de l'école de commerce. Et là, c'est un peu la grande interrogation parce que mon dernier stage, ça a été un stage dans un cabinet de recrutement à Paris, un stage de 6 mois, qui s'est globalement bien passé. Enfin, moi, j'étais très contente. J'avais un regard un peu naïf sur le monde de l'emploi à l'époque. Et j'étais très contente enfin de pouvoir mettre mes compétences à contribution. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais au bout de, je crois, 5 mois ou peut-être même avant ça, je me suis retrouvée dans un état d'épuisement total. J'avais été voir une généraliste à l'époque qui m'avait mis sous Lexomil, donc c'est un anxiolytique assez fort, sans m'expliquer ce que c'était. Donc j'ai commencé à prendre du Lexomil et le soir pour réussir à dormir, parce que j'arrivais pas à dormir. Et en fait, toute seule, j'ai augmenté le dosage petit à petit, parce qu'au bout d'un moment, ça ne faisait plus rien. Et comme elle m'avait rien expliqué sur la molécule, bah, je savais pas que c'était un peu dangereux de faire ça. Donc je me retrouvais tous les soirs à m'avaler pas mal de Lexomil pour réussir à dormir. Je me suis retrouvée complètement accro au Lexomil. Jusqu'au jour où j'ai fait des recherches et que j'ai compris ce que c'était et que je me suis sevrée à la sauvage, ce que je recommande pas de faire. Et en fait, je me suis dit, mais si même j'arrive pas à aller au bout d'un stage de 6 mois, mais comment je vais faire en fait? Comment je vais faire pour gagner ma vie, pour avoir un travail et fonctionner comme tout le monde dans cette société? Donc je suis retournée à Nantes, j'ai réussi à décrocher un emploi dans le privé. Là, pareil, au bout de 9 mois, j'ai arrêté parce que j'y arrivais pas, j'étais complètement crevée. Après, j'ai travaillé un peu dans l'entreprise familiale, donc heureusement. Là encore, on voit à quel point, hein, évidemment, selon la classe sociale dont on est issu, ça peut être soutenant ou au contraire, contribuer à nous enfoncer, c'est bien évident. Donc heureusement que j'ai eu cette opportunité-là. Et puis j'ai repris mes études en fac de psycho et j'ai fait une thèse en psychologie. Et entre-temps, ce qui s'est passé, et quand même, je pense que c'est important de le mentionner, c'est que moi, qui étais évidemment en quête de réponse, parce qu'avec ce mal-être depuis ma préadolescence, je sentais bien que j'arrivais pas à faire les choses comme tout le monde, que je me fatiguais très vite, que autour de moi ça semblait simple pour les gens d'avoir un travail, en même temps d'aller voir les copains le soir pour boire un verre, en même temps d'avoir une vie de couple et même d'avoir des enfants. Et moi je me disais, mais comment ils font? Moi j'arrive même pas juste à avoir un travail, je suis épuisée en permanence. Donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose, quoi. Évidemment, j'ai essayé plein de leviers. Enfin, j'étais en thérapie à plusieurs reprises auprès de plusieurs thérapeutes. Enfin, alors tous les trucs alternatifs, genre le magnétisme et compagnie, tout ça, évidemment j'ai essayé. Enfin, j'avais fait un peu le tour de la question. Et puis un jour, je suis tombée par hasard sur une description de l'autisme. Et surtout, je suis tombée sur un témoignage en fait d'une femme autiste. Et ça m'a beaucoup beaucoup parlé. Et suite à ça, j'ai enclenché des démarches et le diagnostic a été confirmé. Alors, j'ai reçu mon diagnostic tardivement, à l'âge de 27 ans, ce qui n'est pas du tout une exception. Pour les personnes de mon âge et les générations d'avant, c'est très très fréquent qu'on reçoive des diagnostics tardifs parce que l'autisme est très mal connu, et particulièrement les formes d'autisme un peu plus invisibles, et notamment chez les femmes. Hein, parce que l'autisme s'exprime de façon un peu plus subtile chez les femmes. Donc j'ai reçu ce diagnostic-là, qui moi m'a fait énormément de bien, parce que ça m'a permis quand même de comprendre pourquoi je fonctionnais différemment, pourquoi je me fatiguais aussi vite, et donc de repenser ma vie en fonction de mes particularités, plutôt que de me suradapter en permanence à un environnement qui ne me convenait pas, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça a fait un gros changement, et ça a débloqué un certain nombre de choses dans ma vie, et ce diagnostic m'a fait énormément de bien. Donc je me suis sentie mieux à l'issue de ce diagnostic, et puis aussi je me suis sentie investie d'une mission. Et ça, je crois que c'est hyper important, d'avoir un but dans la vie. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc j'ai sorti une BD à l'époque, qui s'appelle La différence invisible. Ensuite, j'ai sorti un livre, j'ai sorti une chaîne YouTube, un blog. J'ai beaucoup, beaucoup communiqué sur le sujet. Quand j'ai repris mes études, ma thèse portait aussi sur l'autisme. Donc ça a donné un petit peu un sens à ma vie, de contribuer à faire connaître l'autisme, et notamment chez l'adulte. Donc ça m'a porté, ça m'a permis d'être assez résiliente, mais malgré tout, en toile de fond, la dépression n'était pas guérie, quoi. Et l'anxiété non plus. Et c'est revenu. Et donc, par période, ça revenait. Et je pense que pour les personnes qui n'ont jamais vécu ça, en fait, c'est difficile même ne serait-ce que de s'imaginer ce que c'est que d'être en dépression. Moi, aujourd'hui, avec le recul, je dis que c'est comme s'il y avait un filtre négatif en permanence sur toutes mes pensées. Thank you. comme si mon attention malgré moi se focalisait principalement sur des choses négatives ou anxiogènes. Donc c'est évidemment un cercle vicieux parce que plus le cerveau est entraîné à penser de cette façon-là, et plus il pense de cette façon-là. Donc on finit par se retrouver dans une espèce de prison mentale et il n'y a pas d'échappatoire, et je voyais pas d'issue. Et ça, c'est l'enfer. Quand j'y pense, je me sens émue parce que je me dis que je sais pas comment j'ai fait pour survivre, quoi. La force que ça demande. Parce que non seulement on va mal, mais en plus de ça, moi, à l'époque, ce qui était très difficile, c'est que je me disais « ma vie, ça va être tout le temps comme ça, quoi. Ma vie, c'est ça. Et il faut faire avec. » Et je me disais « mais... en fait, quoi, jusqu'à 80 ans, je vais être en mode survie comme ça, mais... » Et donc j'en étais arrivée à la conclusion que la vie ne valait pas d'être vécue, quoi, dans ces conditions, parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas de qualité de vie, en fait. Et surtout, il n'y a pas de plaisir à vivre. Et je dis ça alors que pourtant, j'étais une dépressive assez fonctionnelle, quoi. Je travaillais même beaucoup parce que le travail, c'était ma béquille, je faisais du sport, etc. Mais à l'intérieur, c'était le chaos, quoi. Et je pense que c'est important de le dire parce que c'est important aussi que les gens réalisent que c'est pas un manque de volonté, quoi. Je pense que les personnes dépressives, elles sont très volontaires, elles sont très fortes, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Et quand on n'arrive pas à trouver les bons thérapeutiques ou les bons outils pour s'en sortir, bah c'est l'enfer, quoi. Moi, j'appelle ça aujourd'hui une dépression chronique. Ça a toujours été là, avec des périodes plus intenses, avec des moments un peu de respiration. Et aussi, je sais que c'était très lié à mes cycles menstruels. Et ça, en tant que femme, ça joue énormément, et notamment toute la période du syndrome prémenstruel, avec tout le chamboulement hormonal que ça suppose, moi je sombrais complètement, quoi. Une semaine avant mes règles, j'étais complètement dépressive, avec des idées suicidaires en boucle, enfin c'était terrible. Et ça, c'est pareil, les médecins sont très mal formés, et aujourd'hui il y a très peu de solutions qui sont proposées aux femmes qui ont des troubles prémenstruels très intenses. Donc c'était cyclique, sur des périodes de temps assez larges, mais c'était cyclique aussi mensuellement. Donc en fait, c'était terrible parce que les moments où j'allais mieux, je me disais « Ah, c'est cool, là, ça va. » Mais en fait, j'avais toujours cette crainte du moment où ça allait repartir en cacahuète, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de vraie respiration, puis on n'en voit pas le bout, quoi. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Donc c'est tout le temps là, en fait. Plus ou moins intensément, mais c'est tout le temps là. Alors j'ai fini par prendre des antidépresseurs. On m'a prescrit du Brintellix. J'en avais pas mal parlé avec ma psychiatre et je m'étais pas mal renseignée parce qu'en plus, comme moi, j'ai quand même maintenant ce background, un petit peu cette formation scientifique. J'ai tendance à aller lire sur certains sujets des articles scientifiques. Et donc je connaissais un peu les effets secondaires, etc. Et notamment sur la sexualité. Et j'avais dit à ma psychiatre, moi en fait, je veux pas faire le deuil de ma sexualité, donc je veux bien prendre un antidépresseur, mais j'ai pas envie qu'il y ait des effets secondaires à ce niveau-là, quoi. Et elle m'avait dit, le Brintellix, pour ça, il est assez intéressant parce qu'il n'y a pas trop d'effets sur la sexualité. Donc je m'étais dit, banco, on essaye. Et c'est vrai que ça m'a bien aidée, ça m'a soulagée, mais le problème, c'est que tous les 3-4 mois, mon moral déclinait, quoi. Et donc tous les 3-4 mois, il fallait augmenter le dosage. Et quand j'en parlais avec la psychiatre, elle me disait « Mais c'est normal, avec certains patients, ça fait ça, il faut augmenter jusqu'à ce qu'on trouve le bon dosage. » Mais en fait, quand on est arrivé à la 3e augmentation de dosage, il y avait des effets secondaires à la molécule, et notamment, malgré tout, une anorgasmie, donc j'avais plus d'orgasme. Là, je lui ai dit « Mais en fait, jusqu'où ça va aller ?» Enfin, je lui disais « Mais en fait, c'est pas une vraie solution. » Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais, quoi. Et elle, ça n'avait pas l'air de l'émouvoir plus que ça, mais moi, je me suis dit « Mais... certes, ma dépression, ça va mieux, et encore, parce que tous les 3-4 mois, il faut augmenter. Là, j'ai de plus en plus d'effets secondaires, et c'est pas pérenne, cette solution. Donc, au bout d'un an, j'ai arrêté. Alors que, malgré tout, effectivement, ça m'aidait, quoi. Mais, j'ai estimé que c'était pas pérenne, donc je me suis retrouvée à nouveau un peu le bec dans l'eau. Surtout que c'était pas la première molécule que j'essayais, j'en avais essayé d'autres avant, mais les effets secondaires étaient tellement intenses que j'avais dû arrêter. Donc c'était celle, disons, que je tolérais le mieux, mais c'était pas non plus idéal. Donc je voyais pas d'autre solution, quoi. Alors, j'ai entendu parler des psychédéliques un peu par hasard. Enfin, je dis ça, mais aujourd'hui, je ne crois plus au hasard. Donc, je vais le formuler différemment. Je vais dire que c'est venu à moi. J'ai rien cherché parce que, en fait, je ne connaissais pas du tout ce sujet-là. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des effets thérapeutiques aux psychédéliques. Donc, en novembre 2021, je suis tombée sur un genre de documentaire sur Netflix qui parlait du potentiel thérapeutique des champignons magiques, notamment en ce qui concerne la dépression. Et dans ce documentaire, il y avait des témoignages de personnes qui étaient parties consommer des champignons en Jamaïque, parce que là-bas, c'est légal, avec des thérapeutes formés, et qui disaient en gros que ça avait changé leur vie. Évidemment, ça m'a donné beaucoup d'espoir, parce que comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, ma santé mentale était absolument catastrophique. Et je me suis dit, bah voilà, s'il y a bien quelque chose que j'ai pas exploré, c'est ça. Donc, bah banco, quoi. Renseignons-nous et voyons si ça peut être une solution pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire beaucoup d'articles scientifiques sur la psilocybine, donc qui est l'ingrédient actif des champignons magiques, et sur ses effets sur la dépression. J'ai vu qu'il existait des recherches vraiment solides et que, bon, pas pléthore de recherches, mais quand même un certain nombre, et que voilà, et que les résultats étaient prometteurs. Et je me suis dit, bah, il faut absolument essayer, quoi. Il faut essayer. Donc j'ai commencé à consommer en décembre 2021, toute seule, ce que je ne recommande pas. Surtout que moi, j'avais jamais pris de substance, en fait. Enfin, j'avais consommé de l'alcool étant jeune, et à l'époque, j'avais dû fumer peut-être 2 pétards dans ma vie. Enfin, je veux dire, j'étais pas du tout familière des substances, même pas de façon récréative, rien. Mais comme je l'ai dit, je m'étais beaucoup renseignée sur les champignons, donc j'étais vraiment très rassurée, j'avais confiance en la substance, je savais ce qui pouvait se passer, j'avais confiance aussi, je pense, en moi. Et puis, de toute façon, je me disais, bah, ça peut pas être pire. T'es dans un tel état que ça vaut le coup de le tenter, quoi. Et j'aurais aimé être accompagnée par un ou une thérapeute formée. Et je sais qu'en France, ça se fait de façon officieuse, bien sûr, parce que c'est illégal, mais il y a des thérapeutes qui ont le courage de le faire. Mais moi, à l'époque, j'en connaissais pas. Donc, j'ai fait mes premières expériences toute seule et j'ai vraiment suivi les protocoles qui existent dans les recherches, quoi. Donc avec un masque anti-lumière sur les yeux, avec des AirPods dans les oreilles, avec une playlist qui est faite exprès pour ça, dans un environnement sécurisant, c'est-à-dire chez moi, en fixant une intention au préalable. Et mes intentions, c'était à peu près toujours, bah voilà, je voudrais aller mieux, je voudrais me libérer de mes blocages, etc. Et j'ai commencé avec des petites doses, donc je crois que mon premier trip, je l'ai fait avec 2 grammes de truffes. Et j'ai fait plusieurs trips comme ça pendant plusieurs mois en augmentant les doses progressivement jusqu'à 6 grammes de truffes, je crois. Et chaque voyage m'a fait beaucoup de bien. Et je sentais même comment des choses se débloquaient physiquement en moi. Et ça a été assez fou. Parce que dès les premiers voyages, j'ai senti que mon corps retrouvait de l'espace. Je sais pas comment le dire, mais comme s'il y avait quelque chose qui circulait dans mon corps et que mon corps respirait un peu plus, quoi. Donc il y a des choses qui se débloquaient physiquement, qui se débloquaient mentalement. Mais je sentais qu'il restait quand même quelque chose, et j'avais cette intuition que ce truc-là qui restait bloqué en moi pourrait se débloquer, mais avec une très forte dose. Mais ça, je voulais pas le faire toute seule. Donc, je me suis dit, bah, allons dans une retraite exprès pour ça, en Jamaïque, comme ce que j'avais vu dans le documentaire. Donc, je me suis un peu renseignée, j'ai trouvé une retraite là-bas qui m'avait l'air super. C'est un centre fondé par des Américains. Et donc, comme la culture et la consommation de champignons magiques là-bas est légale, voilà, ils sont installés en Jamaïque. Et sur une semaine, en fait, quand on va là-bas, on est logé, nourri, et sur une semaine, on a 3 macro-doses de champignons. Donc, je réserve ma semaine, j'y vais, c'était en septembre 2022. Je suis arrivée le 9 septembre, je m'en souviens très bien, j'ai pas une bonne mémoire des dates, mais cette date-là, je m'en souviens. Et donc, dès le premier matin, en fait, il y a une thérapie de groupe, donc je me suis retrouvée en cercle avec 9 autres participants qui étaient tous américains, j'étais la seule européenne. De tous les âges, le plus jeune devait avoir, je sais pas, à peine la trentaine, et le plus âgé plus de 70 ans, des hommes, des femmes, et qui tous exprimaient, et c'était hyper touchant, et ce jour-là, on a tous beaucoup pleuré, qui tous exprimaient qu'en fait, ils avaient tout essayé, qu'ils n'en pouvaient plus, et que c'était un peu ça, la chance de la dernière chance, quoi. Et donc, c'était hyper fort. Et donc, première thérapie de groupe, et dès le premier jour, première dose, en pleine nature. Donc, en fait, il y a un grand jardin, et voilà, on est assez éloignés les uns des autres, donc ça c'est plutôt confortable, parce que moi j'avais pas envie d'être à côté de quelqu'un d'autre au moment de voyager. Et donc on a notre petit tapis de yoga installé sur l'herbe. Moi j'étais sous un arbre, donc j'avais de l'ombre, j'étais bien. Et y a les thérapeutes qui sont là, qui observent et qui viennent vers nous dès qu'on a besoin. Donc première dose, j'ai pris 4 grammes de champignons séchés. Donc ce qui est une dose beaucoup plus forte que précédemment, parce que les champignons, c'est plus fort que les truffes, je précise. Et puis voilà, le lendemain, débrief, thérapie de groupe, surlendemain, nouvelle dose, etc. Et ça pendant une semaine en fait. Donc c'est un gros travail d'introspection, il y a beaucoup de thérapie de groupe, les prises de champignons ça secoue pas mal, ça fait remonter pas mal de choses à la surface, c'est des montagnes russes émotionnelles. Mais je suis ravie d'avoir eu le courage de le faire parce que ça a été génial et ça a changé ma vie quoi.
Alors évidemment, j'imagine que vous avez envie d'en savoir plus sur les voyages qui ont changé la vie de Julie. Mais avant ça, je vous rappelle juste que vous avez désormais la possibilité de soutenir financièrement le podcast grâce à une page Tipeee que j'ai ouverte récemment et dont j'ai mis le lien en description. On retrouvera les voyages de Julie dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien !